Chers frères et sœurs, je vous salue. J'espère que vous allez bien et que l'Éternel, notre Dieu, pourvoit à tous vos besoins. Amen et amen. Nous le remercions encore pour cette semaine et j'espère qu'il fera encore de grandes choses dans nos vies et nous aidera à continuer à marcher sur ce chemin étroit, mais difficile et qui mène à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, donc persévérons encore. Les choses iront de mal en pis. Mais l'Éternel dit même que nous mangerons même le pain dans l'angoisse. Vous serez angoissés, mais vous mangerez quand même le pain. Vous ne serez pas privés du pain. Donc, faisons-lui confiance et continuons de prier. L'Éternel est avec nous. Qui sera contre nous? Amen et amen. Oui, je voudrais reprendre ici un message sur le principe des prémices ou des premiers-nés. Parce que j'avais fait ce message dans un culte la dernière fois, mais néanmoins, compte tenu du temps qui m'était imparti, et tout le monde sait que je ne fais pas de courts messages. Voilà, comme je ne fais pas de courts messages, donc j'ai essayé de ramasser l'enseignement. Donc c'est la première fois que je fais cet enseignement. Je ne pense pas que cet enseignement a déjà été fait quelque part. Donc c'est quelque chose que moi aussi j'ai compris il y a peu de temps. D'accord, mes frères et sœurs. Donc j'ai eu quelques réactions des uns des autres même au cours du culte, donc le frère qui m'avait invité, le responsable, l'évangéliste, qui est aussi missionnaire, m'a posé quelques questions ainsi de suite. Donc les gens qui étaient là aussi m'ont posé quelques questions. Donc j'aimerais reprendre, je vais faire plutôt un enseignement en trois volets. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier volet. Qu'est-ce que c'est que le principe des prémices ou des premiers-nés? C'est ce que nous allons voir. La comprendre, quoi. La comprendre ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de principes dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, voilà, comme le principe des limites ou bien le principe du reste. Vous allez voir que même si le peuple d'Israël rétrogradait jusqu'à une limite inférieure, à zéro même, voilà, il y avait toujours un reste. L'Éternel gardait toujours un reste. Il a bien dit à Élie. Donc il y a beaucoup de principes. Donc il y a aussi ce principe des prémices ou des premiers-nés qui est là dans la parole de Dieu. Donc notre lecture, c'est dans Genèse. C'est dans Genèse ou Béréchit, Genèse 4. Genèse 4, le chapitre 4 et le verset 3 à 5. Le verset 3 à 5. 3, 4, oui, 3 à 5. 3 à 5. Donc, je lis au premier verset, Genèse 4, le verset 1 au verset 5. Ce sera mieux pour la compréhension. Donc, je lis dans la version hébraïque, traduit en français. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, en disant. On ne dit pas Caïn, bon, en hébreu, mais bon, peut-être que pour la compréhension du 7, on va plutôt dire Caïn, on va dire comme ça en français. En disant, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Elle enfanta ensuite son frère Abel ou Hevel, qui veut dire nuage, vapeur, souffle. Caïn veut dire en hébreu, veut dire possession. Abel devint pasteur de menu bétail et Caïn cultiva la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre, une offrande au Seigneur, à l'Éternel. Et Abel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. Je continue la lettre. Le Seigneur lui dit, « Caïn, pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, vous voyez que le Seigneur lui lève une porte de sortie de repentance. Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. » Voilà. Donc, voilà. Et en hébreu, d'accord? Donc, si nous allons en hébreu, premier-né de son bétail, c'est Beorut Tchounout, c'est au pluriel. Là, bon, vous ne pouvez pas comprendre, donc ça veut dire berger de menu bétail, de petit bétail, voilà, donc qui comprend des brebis et des chèvres. Alors, qui veut dire, mais Abel et son frère aîné, Caïn, était le frère aîné, Abel le second. Voilà. Et donc, la Bible nous présente, nous dit que Caïn était cultivateur, Abel berger, et que les deux ont présenté des offrandes à l'Éternel, mais que l'Éternel n'a agréé que l'offrande de Abel. C'est un verset qui m'a toujours interrogé. Je me suis posé la question de savoir si est-ce que même des gens ont prêché sur ça, que Dieu n'aimait pas des sacrifices de végétaux ou bien des offrandes végétales. Je me suis posé la question, mais non, parce que quand on voit à la suite dans Lévitique et dans Nombre et dans Deutéronome, on voit que les sacrifices offerts, qui étaient offerts donc à l'Éternel Dieu, comprenaient donc du végétal, des céréales, des fleurs de farine, des gâteaux, des libations avec de la farine, ainsi de suite. Il y avait aussi de l'huile, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous voyons que la différence n'est pas là-bas. La différence n'est pas là-bas, d'accord? La différence, donc, est ailleurs, n'est pas là-bas. Parce que l'Éternel est un juste juge. La Bible nous dit que son trône a deux piliers, la bonté et l'équité, ou bien la justice. Il ne peut pas être injuste, sinon il ne sera plus Dieu. Voilà. Il n'y a aucune imperfection en lui. Il est le bien, l'amour absolu. C'est ce que Yeshua, le Seigneur Jésus, disait, que le diable n'a rien en lui. Le péché n'a rien en lui. Rien de chez rien, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, si nous voyons ce qui a été dit de Abel et Caïn, nous voyons qu'il y a une différence. Caïn a présenté des produits de la terre. Voilà une offrande. Il a pris les produits de la terre. Il a pris tout. Il a pris tout comme ça et il a offert à l'Éternel Dieu. Il n'a pas fait de distinction. Vous savez, on n'offre pas la même chose à tout le monde. Lorsqu'on fait un cadeau, le plus souvent, nous le faisons en connaissance de ce que nous connaissons de la personne, de l'image que la personne a, de son poids dans la société, des liens qui nous unissaient, ou bien de l'opportunité que cela pouvait nous apporter, ou bien les portes que cela peut nous ouvrir, ainsi de suite. Là, ou bien la considération que nous avons de la personne qui est destinataire de notre cadeau. De la même manière, ici, on voit que Caïn a pris que des produits de la terre comme ça, n'importe quel produit, il a donné à l'Éternel sans distinction. La Bible, il y a un adage qui dit « à tout Seigneur, tout honneur ». C'est comme ça. L'Éternel Dieu est un roi, est un Seigneur. C'est l'être le plus grand, le plus de l'univers. Je ne sais même pas comment le dire. C'est l'être même de l'univers. C'est l'être de l'univers. Nous, nous ne sommes que des contingences parce que nous passons. Mais l'éternel seul est. L'éternel seul est. C'est pourquoi, quand il est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne s'est pas encore fait connaître sous son nom. Ehéwé, Ehéwé, Ehéyé, Ehéwé. Je suis, c'est, ce mot est un verbe, c'est le verbe être, conjugué avec ce que nous appelons le verbe conversif, voilà, c'est ça. Voilà, ce qui fait que ce mot est à la fois au présent, au passé et au futur. Je serai ce que je serai, je suis ce que je suis, j'étais ce que j'étais. Voilà, donc c'est ça qui a donné le mot éternel. Voilà, c'est ça qui a donné le tétagramme, là. Voilà, c'est ça, c'est ce mot-là, voilà. C'est le « je suis », c'est le nom propre de l'éternel Dieu. C'est le verbe « être », d'accord? Voilà, donc c'est ça. Donc, l'éternel seul est. Donc, Caïn était, je vais le comparer à un religieux qui pense qu'il pouvait amadouer l'éternel Dieu. Il a donné ce qu'il avait, et puis c'est bon, et puis c'est bon, et puis c'est bon. Que ça plaise ou pas à l'éternel. Moi, j'ai donné, hein, voilà. C'est comme aussi, beaucoup de gens aussi font de la dîme et autres. Ils donnent leur conscience satisfaite. Ok, j'ai donné à Dieu, Dieu doit me rendre aussi au centuple, ainsi de suite. Vous voyez, donc, ne soyons pas des religieux, soyons vraiment des amis de Jésus, des amis de l'éternel Dieu. C'est ce que Yeshua avait dit à ses apôtres lorsqu'il partait, je ne vous appelle plus d'ici, mais je vous appelle des amis. Parce que quand on est ami de quelqu'un, on le connaît. On connaît certains de ses secrets. On connaît, on est son intime. De la même manière, l'Éternel Dieu voudrait que nous soyons, que nous puissions le connaître. Vous savez, donc, Caïn ici n'a pas fait de distinction, malgré qu'il était l'aîné. Il n'a pas fait de distinction, il ne connaissait pas l'éternel Dieu. C'est ça, au fait, son problème. Ce qui fait que il a donné n'importe quoi à l'éternel Dieu. Or, son petit frère, la Bible nous dit que son petit frère a donné les premiers-nés de son troupeau. Beorut Chonon, de son troupeau. Ce mot, Beora, en tout cas qui est Beora, qui est premier-né, voilà, droit d'aînesse, aîné, voilà, premier-né ou droit d'aînesse, donc qui vient de la même racine que Beor. Beor, c'est le premier-né. Et qui vient de la même racine que prémisse, Bikuor, Bikuor, voilà, c'est l'accent, il y a le sang, Beor, Bikuor. Voilà, donc Béor et Bekuor vient de la même racine, Bachar. Voilà, ça vient de la même racine, Bachar, qui est premier-né, qui est premier-né, hein, premier-né, oui, c'est ça, qui vient de Bachar, premier-né, qui est de la même racine, premier-né, être premier. Voilà, être en avance, enfanté en premier, l'aîné de l'homme et des animaux. Voilà, premier-né, l'aîné, ou le dévancier. Mais également, on peut aussi le comparer à ce que ce soit la meilleure. Parce que il y a ce mot Béor se trouve aussi dans Ruben, vous voyez, quand Jacob a parlé de Ruben. D'ailleurs, il y a une prophétie là-bas que je vais vous chercher sur Ruben, sur le Béor, les premiers-nés. D'accord, nous allons voir ça. Les Béor, le premier-né, où Jacob a parlé de Ruben, son premier-né qui était monté sur sa couche. Qui était monté sur sa couche et qui lui a pris, qui a couché avec sa belle-mère. Voilà. Qui a couché avec sa belle-mère. Donc, ce qui a quand même engendré, voilà, c'est ça. C'est dans Genèse 49, 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance. On va le lire, 49, 3. 49, 3. D'accord. Voilà, c'est ce que Jacob disait de son fils Ruben en prophétisant. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance. Donc ici, je reviens là-dessus. Je voudrais expliquer ce principe des premiers-nés ou du premier-né. Voilà, donc, Abel donc avait choisi la meilleure partie, les meilleures bêtes, comme l'élite, comme la partie grasse, des bêtes sans défaut, de belles bêtes en bonne santé. Vous voyez, parce que il a fait un choix, il a réfléchi, il connaissait l'Éternel de par son sacrifice, il a montré qu'il a de la considération pour l'Éternel Dieu, qu'il le connaissait, vous savez, qu'il le connaissait, qu'il a de l'estime, de l'amour, qu'il adore vraiment l'Éternel, parce que l'Éternel Dieu est un roi. Il est un roi. Il est le roi de l'univers, le créateur de toutes choses. Donc, nous ne devons pas y aller n'importe comment devant lui. D'accord? Donc, Abel a montré qu'il connaissait l'Éternel et il a réfléchi, il a pensé, il veut donner le meilleur de ses troupeaux. De ses troupeaux. D'accord? Il a donné le meilleur de son troupeau à l'Éternel Dieu. C'est pour cela que son sacrifice a été agréé. Parce qu'il a montré par son sacrifice qu'il connaissait Dieu. D'accord? Donc, c'est à l'Éternel les prémices, à l'Éternel les premiers-nés. On a vu, d'accord? Donc, voilà. Donc, j'explique dans la deuxième partie de ce que je fais, on parlera des aisances bibliques de prémices ou de premier-né. Et dans la troisième partie, nous verrons les implications pratiques dans notre vie. Dans notre vie. Mais aujourd'hui, cette explication du Béror, voilà, ou des prémices Bikwa, nous allons prendre l'exemple du Seigneur Yeshua, qui est le premier-né par excellence. Donc, le premier-né a une place spéciale. Il y a même une prière, une bénédiction des premiers-nés. Vous avez vu, donc, entre Ésaü et Jacob. Ésaü était le premier-né, donc à lui revenait le droit d'aîné, cette bénédiction, mais la Bible dit qu'il a méprisé son droit d'aîné. C'est comme Caïn. Caïn aussi a méprisé son droit d'aînesse parce qu'il n'a pas montré à son jeune frère qu'il connaissait l'Éternel. Parce que, au fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le premier-né est l'intermédiaire entre le père, le patriarche et les autres. C'est ça qu'il a dit, c'est ce que Jacob a dit ici. Ruben, toi mon premier, ma force et les prémices de ma vigueur. C'est comme si l'homme, en donnant naissance au premier-né, a mis tout son amour, toute sa force, toute sa vigueur. D'accord? C'est pas la même chose. Le premier-né a une place particulière. Il y a une bénédiction pour les premiers-nés. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est ça. C'est prophétique. C'est prophétique, tout cela. D'accord? Voilà. C'est que le Ruben avait quelque chose de supérieur que les autres frères n'ont pas. Les autres frères de Jacob n'avaient pas. Parce que Ruben avait une place particulière. Il était le premier-né. Et il devait jouer l'intermédiaire. À lui revenait l'héritage et il devait jouer le rôle d'intermédiaire entre le Père, qui est le patriarche, et les autres. C'est lui qui devait donner l'exemple, qui doit montrer le chemin aux autres, qui doit aller au combat en premier, qui doit être devant ses frères. Le premier doit être devant, doit être, voilà, parce que c'est lui qui, normalement, prend la relève du patriarche, du Père, lorsque le Père venait à disparaître, et qui va gérer, qui va montrer l'exemple, qui va se donner, vous voyez, c'est ça, la place du premier-né. Et ce principe existe aussi, ce principe existe dans la Bible. Les premiers-nés sont à l'éternel Dieu. Dans Ésode 4, le verset 22, l'éternel Dieu a dit à Pharaon, « Laisse aller Israël, mon peuple, mon premier-né. » Et la Bible nous dit également que Israël est le peuple que l'Éternel a connu d'avance. C'est lui le premier-né. Donc si l'Éternel appelle Israël son premier-né, c'est qu'il y avait d'autres, il y a un deuxième, l'Église. L'Église est le deuxième enfant de l'Éternel Dieu. Si Israël est le premier-né, c'est l'Éternel Dieu même qui le dit. Lisons dans Ésode 4, le verset 22. Et c'est à cause de cet incident, lorsque les premiers-nés de Pharaon sont décédés, l'Éternel a décidé le jour-là que tous les premiers-nés de humains et de bêtes sont à lui désormais. Mais c'est prophétique, c'est par rapport à ce que le Seigneur Yeshua allait faire. Ou bien allait faire. 82. Ésode 4, 22, on nous dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, mon béor. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » D'accord, voilà. Donc, l'Éternel Dieu appelle Israël son premier-né. C'est le peuple qu'il a connu d'avance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, disait dans Romains. Vous avez vu dans Romains 8, le verset 29. Il a dit quoi? L'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, être semblables à l'image de son fils. Ah non, c'est ça? Oh non, 8, 29? Oh, je sais pas. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. C'est pas ce que je voudrais. Mais Paul parlait d'Israël en disant que ils sont héritiers de l'Alliance. Que l'Alliance, tout leur appartenait. Les patriarches, l'Alliance leur appartient. Appartient donc à Israël, parce qu'ils sont le premier, ils ont hérité de cela. Hein? Ils ont hérité de cela, ils ont hérité. Je ne vois pas. Oui, ben, vous le savez, quand vous êtes des étudiants, vous chercherez. Hein? Vous chercherez parce que il a dit que. C'est à eux qu'appartenait l'alliance, les patriarches, les promesses, ainsi de suite. D'accord? Hein, vous connaissez ce verset? C'est dans Romains 9 ou bien Romains, je ne sais pas combien. Hein, ça m'est venu maintenant. Ah voilà, c'est ça. C'est dans Romains 9 et 4. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. D'accord? C'est pour cela même que Yeshua a dit d'abord, allez vers la maison d'Israël, allez vers Israël d'abord, pour réveiller Israël, avant d'aller dans le monde entier. Parce qu'il faut que ce soit le fils aîné qui dirige, mais les Israélites de l'époque ont échoué, ils n'ont pas su vraiment, comprendre le message de Yeshua. Ils n'ont pas su comprendre. D'accord? Donc, voilà. Pas su comprendre. Donc, normalement, c'est à Israël que revient le rôle d'aller enseigner les autres. D'aller enseigner les autres. Mais ce rôle va leur revenir encore au moment de la grande tribulation, je pense. Voilà, donc c'est ça. Oh, ils vont se réveiller, ils vont aller dans le monde entier. Ils vont aller pour enseigner, ainsi de suite. Pas dans le monde entier, parce que le monde sera sous la domination de l'ennemi. Voilà. Mais ils vont se réveiller peut-être dans le millénium et qui vont enseigner les gens. En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas assez clair là-dessus, mais passons, ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui, de mon enseignement. Mais Israël va se réveiller, le rôle qui leur avait été promis au début, donc ce rôle-là, ils vont l'accomplir, parce que l'Éternel sera encore favorable à Israël. Il va se tourner encore vers Israël pour que Israël puisse reconnaître son Messie, le vrai Yeshua HaMashiach, le Messie. Donc, c'est ça. Israël a appelé son premier-né. Et voilà, comme tout premier-né, l'alliance, les pâtes, le culte leur est dû. Il est l'héritier. Il est il est supérieur en dignité. Et ensuite, voilà, comme le dit Jacob ici, ce n'est pas une question d'être, de ne pas être l'égal de ses frères, mais c'est sur le rôle que ce premier-né doit jouer auprès de ses frères. C'est pour cela. C'est pas une question d'être supérieur à l'autre ou pas. Je ne pense pas que c'est ça, sinon ce serait injuste. Mais, il faut quelqu'un, c'est comme s'il est le prêtre, s'il est l'intermédiaire entre le père, le patriarche et ses frères. C'est lui qui est plus proche du patriarche, qui le représente en toutes choses. Quand le patriarche n'est pas là, les autres doivent s'adresser à l'aîné, qui les guide, qui les conseille, ainsi de suite. Mais ici, Caïn a méprisé ce droit et c'est Abel qui a pris ce droit-là. Parce que il a su comprendre, il a su connaître vraiment ce qui est l'Éternel, oh Dieu. Et nous voyons cela aussi par rapport à Jésus, à Yeshua. D'abord, il est décrit dans le psaume 89, le verset 28. Psaume 89, le verset 28, comme étant le premier-né, comme étant le premier-né. Lisons dans Psaume 89, le verset 28. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cela quand la Bible dit que Yeshua est le premier-né de la création, ou bien le premier-né d'entre les morts. Les gens n'ont pas compris et certains même en ont fait des doctrines en disant « Ah oui, la Bible dit que Yeshua est le premier-né de la création, donc il a été créé, ce n'est pas, il n'est pas Dieu, il n'est pas divin. » Oh, vraiment quoi. C'est-à-dire que un homme à moitié instruit est vraiment un savant dangereux. Lisons dans Psaume 89, le verset 28. Psaume 89, le verset 28. Je vais terminer bientôt. Le verset 89, le verset 28. Je termine bientôt. Le verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Et lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Voilà. Donc, lisons également dans... Voyez, ça revient dans Colossiens 1, le verset 15 et 18. Colossiens 1, ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneurs et les autres, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. C'est la version semeur. Lisons dans 1 Corinthiens 15, le verset 20 et 23. Le verset « Mais maintenant, le Messie est ressuscité. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue par un homme, mais chacun à son propre rang. Le Messie est les prémices, ensuite ceux qui sont du Messie à son avènement. Et également dans Hébreux 1, le verset 6 également, qui parle du premier-né. Hébreux 1, le verset. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ouais, c'est ça. Donc, Yeshua est appelé aussi le premier-né. Et la Bible nous dit même clairement qu'il est le seul intermédiaire entre l'Éternel Dieu et les hommes. Vous voyez, c'est un titre. Le Messie existait avant, puisque dans Agée, on nous le bien dit, que ses origines remontent aux anciens jours, au temps de l'éternité. Et nous voyons une figure du Messie dans l'ange de l'Éternel qui avait conduit Israël jusqu'au Sinaï et qui se manifestait encore en Israël à l'époque, puisque si nous voyons l'entretien que cet être qui est connu des Hébreux à l'époque, puisqu'il les visitait sûrement régulièrement, on voit Gédéon, la conversation de Gédéon avec lui, de Jephthé avec lui, la conversation de la femme de Manoah, la mère de Samson avec cet être-là. Et cet être existait, puisque quand Israël sortait de l'Égypte, l'Éternel Dieu leur a dit, ok, moi je ne m'occupe pas de vous, sinon vous allez être décimés, j'envoie mon ange et mon nom est en lui. Et il ne pardonnera pas vos péchés. Quel est l'ange qui peut pardonner les péchés? Ce n'est Yeshua seul. Et dans le buisson ardent également. Et lorsque l'ange de l'Éternel a appelé, on dit l'Éternel a appelé Abraham. L'ange de l'Éternel lui dit, je vois que tu me crains. Vous voyez, c'est un être qui se mettait, qui remplaçait l'Éternel Dieu et qui avait droit à l'adoration. Aucun ange n'a droit à l'adoration, seul le Fils, puisque l'Éternel même Dieu le dit, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est le premier-né en tout, il doit être le premier en tout. C'est le témoignage, donc, il est le prémisse, il est le prémisse de ceux qui sont ressuscités, de ceux qui sont nés de nouveau, ainsi de suite. C'est lui. Il doit être prééminent en toutes choses. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit parce que tous les anges doivent l'adorer. Et dans une part, je pense que c'est dans Ésaïe, il a dit que son serviteur s'élèvera. Le Messie s'est élevé. Plus que Abraham, plus que Moïse et plus que les anges, trois fois. Donc nous voyons le principe de premier-né donc, dans Yeshua. Il est l'intermédiaire, il est celui qui représente le patriarche. Il est celui-là qui a le nom du patriarche en lui. C'est ce que Jacob dit de son fils Ruben. Mais Ruben n'a pas su garder cette dignité de premier-né. C'est comme s'il y a eu une malédiction des premiers-nés. Hein? Et une malédiction des premiers-nés. Donc, il n'a pas su garder cette dignité. Il y a même une bénédiction des premiers-nés. Puisque lorsque Ésaü est parti voir Jacob, est parti voir Isaac pour demander la bénédiction, son père lui a fait comprendre que il n'y avait qu'une seule bénédiction. C'est ça, il n'y en avait pas d'autre. Parce que Isaac devait transmettre la lumière, le flambeau, à son premier-né qui doit continuer, qui doit amener ses frères à l'adoration du seul vrai Dieu, l'Éternel. Le Dieu, le Ha Elohim, le Dieu, l'Éternel Dieu. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Or, Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Allez, à quoi ça me sert? C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas mépriser. Nous le verrons dans les implications dans notre vie pratique. Je vais quand même le dire aujourd'hui. Nous sommes l'aîné. L'Église est aussi fait partie des prémices de l'Éternel. Des prémices. Nous allons le voir. des versets qui le disent, que nous sommes, ceux qui sont nés de nouveau, sont comme des premiers-nés, sont comme des prémices que l'Éternel a arrachées de la terre. Donc les premiers-nés, les premiers ne se comportent pas ne se comportent pas de n'importe quelle manière. C'est des gens dignes, c'est ce qu'il a dit. Tu es Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité, de puissance. C'est ce que la Bible dit. Il y a aussi un autre mot qui est proche de prémisse, c'est le mot Réchit. Vous avez vu Béréchit, le commencement. Prémisse aussi, c'est le commencement. C'est la meilleure partie. C'est le commencement de la lignée de la personne qui enfante. C'est son commencement. C'est pourquoi, vous voyez, Ruben, ici, le verset est explicite. Ma vigueur supérieure en dignité et est supérieure en puissance. Normalement, à cause de cette place, cette personne ne doit pas se conduire d'une manière, de n'importe quelle manière. Cette personne est sainte, c'est-à-dire mise à part pour amener ses frères, pour montrer l'exemple, pour donner le là, pour que les autres puissent marcher dessus. Ouais, c'est ça, mais compte tenu de ce qui s'est passé, mais il a perdu sa première place, et c'est Lévi qui a été choisi pour être attaché au sacerdoce. Lévi a été associé, et Ruben aussi a perdu son droit d'aînesse qui est passé à Joseph, et de Joseph c'est passé à Éphraïm. Vous avez vu, Éphraïm, pas à Manassé, c'est passé à Éphraïm. Malgré que Manassé était le premier-né de Joseph, l'Éternel Dieu a refusé, compte tenu du rôle que Éphraïm allait jouer dans les prophéties. Donc ici, nous voyons que ce principe encore se vérifie dans la vie de Yeshua, qui est appelé le premier-né, qui fait partie des prémices. D'accord ? Qui fait partie donc des prémices de l'Éternel, des prémices, et qui fait partie des premiers-nés. Il est le plutôt, qui ne fait pas partie, mais il est le premier-né. Il est le premier-né donc de la création, le premier-né en toutes choses, le premier dans la résurrection, le premier en tout, ainsi de suite. D'accord? Hein? Et les prémices. Il est la prémisse, Yeshua, ou les prémices. Les prémices. Donc, voilà. Prémisse dans le dictionnaire. Prémisse, nom féminin pluriel. On dit toujours les prémices. Première manifestation de quelque chose d'important. Première manifestation, premier fruit de la terre, premier né des animaux, des hommes, offert en hommage à la divinité. D'accord, c'est ça. C'est la première manifestation de quelque chose d'important. D'accord, voilà. Les prémices, on dit toujours les prémices. Donc, Christ est la prémisse de la résurrection, voilà. Il est le premier à ressusciter. Il est le premier né de la création. C'est à lui qu'appartient toutes ces choses-là. C'est lui l'héritier. Quand l'Éternel Dieu dit de lui, lorsque il sortait donc du baptême des eaux du Jourdain, l'Éternel dit quelque chose. Voici mon fils bien-aimé, voici mon premier-né, voici les prémices en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, c'est ce que Jacob aussi disait de Ruben. Toute mon affection montre que Yeshua est vraiment le premier-né. Donc, il y a ce principe dans la Bible qui est là. Donc, le premier-né a une place particulière, ou la première-née a une place particulière. fait partie des prémices et cela lui confère une place en dignité puisqu'il est proche du patriarche. De la même manière, Yeshua est le premier-né de la création, les prémices de la résurrection et en toute chose, nous l'avons lu. D'accord? C'est un principe. Il est l'intermédiaire entre l'éternel Dieu et nous. C'est ça. Comme c'est le rôle que doit jouer le premier-né, en tout cas. D'accord? Et c'est ce que la Bible nous dit. Et à partir donc de ce qui s'est passé avec Caïn et Abel, nous voyons ce principe dans les premières pages de la parole de Dieu. Donc le Messie est le premier-né. Israël, l'Éternel Dieu l'a nommé le premier-né par rapport à l'Église qui va venir plus tard. Et ce premier-né et le deuxième sont greffés, nous sommes greffés sur le même tronc d'Israël. C'est ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 9, que les gens le veulent ou pas, nous sommes greffés parmi Israël. Ben oui. Donc, nous pouvons dire que nous sommes tous hébreux, ou bien nous sommes tous juifs. On peut le dire comme ça. Puisque nous sommes greffés, nous participons à la sève. Beaucoup de gens ne le savent pas ça. Ça vous scandalise? Bon, ok, ça c'est une autre histoire. Que l'Éternel nous aide et nous garde et nous donne la grâce de comprendre la parole de Dieu, de ne pas nous égarer dans de vaines considérations non bibliques, mes frères et sœurs. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, c'est ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Et vérifiez par vous-même. Et dans le livre de l'Apocalypse ou des Révélations, parce que la parole de Dieu nous dit que la vérité est confirmée par la déposition de deux ou de trois témoins. Vérifiez par vous. Non, nous avons vu dans Genèse, donc Aleph, et dans Apocalypse, la Révélation, le Tav. Alpha, dans Genèse, le commencement, et la fin, qui est l'Apocalypse. Nous voyons cela. En parlant de Jean, le verset 4, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yeshua le Messie, le témoin fidèle, le premier né des morts, et le prince des rois de la terre. Voilà le premier né des morts. Voilà, c'est celui qui est ressuscité, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, le premier qui est ressuscité. Le premier né des morts est le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs par Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et tout le monde dit Amen. Je termine par là. À la prochaine. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen et Amen.